Les modalités d'examen à l'université Rennes 1 ont beaucoup fait parler ces dernières semaines. En cause, la télésurveillance qui pose pas mal de questions.
Et oui, et donc j'ai échangé ce matin avec Erwan Allot, enseignant-chercheur à Géosciences Rennes et vice-président de la commission formation et vie universitaire du conseil académique de l'université Rennes 1. Lui et David Alice, le président de l'université Rennes 1, ont donc signé un communiqué mardi dernier pour rassurer les étudiants et étudiantes de l'université face aux nombreuses réactions sur la télésurveillance généralisée. Aujourd'hui, vous affirmez donc qu'il n'y aura pas de télésurveillance pour veiller au bon déroulement des examens pour les étudiants de Rennes 1.
Tout à fait. Il n'a même jamais été question de télésurveillance généralisée à l'université de Rennes 1. Le cadrage que nous avions validé au mois d'avril à la CFVU prévoyait que ça reste un dispositif exceptionnel au sein de l'université, que souhaitaient mettre en place certaines composantes de l'université ou certaines formations de l'université, suite à des demandes d'ailleurs de garanties de la part de certains étudiants, puisque a priori, effectivement, dans notre population étudiante, il n'y a pas unanimité sur le sujet. Mais donc, en fait, en ayant bien conscience qu'une partie des étudiants était contre, hein, ça avait même été exprimé à la CFVU, nous avions limité l'utilisation de ce dispositif.
Donc aujourd'hui, quelles sont les facultés qui seraient concernées par ces modalités ?
Alors on n'en a qu'une, c'est l'Institut de gestion de Rennes qui envisage effectivement ce dispositif pour 5 de ses épreuves.
Et c'est un choix discrétionnaire du personnel enseignant qui le désire ?
Oui, aussi parce que ce personnel connaît bien les capacités de connexion de ses propres étudiants. Et puis, bien sûr, le dispositif de télésurveillance implique le volontariat aussi des étudiants pour s'y soumettre, hein, bien sûr. Il faut un consentement parce que c'est un dispositif qui le nécessite.
D'abord, il y a un formulaire qui a été adressé donc, par mail, j'imagine, à tous les étudiants et étudiantes donc, pour veiller au respect des règles d'examen, ne pas faire par autrui tout ou partie des travaux qui sont demandés, ne pas échanger avec les autres candidats, ne pas plagier. Quel est le but de ce formulaire ?
Alors, en fait, ça, c'est effectivement une politique générale de l'établissement à laquelle on réfléchissait depuis plusieurs mois. Et puis, dans le cadre des dispositions là qu'on a mis en place suite à la crise sanitaire, on a pensé que c'était effectivement le moment effectivement de rappeler qu'il y avait un certain nombre de règles élémentaires hein, qui s'appliquent aussi pour les examens en présentiel classiquement. Et donc, on souhaitait rappeler aux étudiants effectivement ces règles élémentaires dans le contexte de la crise et d'ailleurs leur demander sur ces trois règles-là, celles que vous venez de rappeler, un engagement. Et puis, il y a eu en fait peut-être un petit défaut de communication de notre part puisque en même temps qu'on demandait cet engagement, on donnait aussi aux étudiants un certain nombre d'informations sur lesquels on ne demandait pas l'engagement des étudiants. Et là, il y a eu un petit quiproquo et sur lequel nous avons recommuniqué effectivement cette semaine pour bien expliquer qu'il y avait bien deux choses dans le formulaire. D'abord, s'engager effectivement sur les règles que vous venez de rappeler et puis d'autre part, avoir pris connaissance tout simplement des autres informations qui étaient associées au formulaire.
Qu'est-ce qui se passe si ce formulaire-là n'est pas signé par l'étudiant ou l'étudiante ?
Alors, rien du tout, puisque là, on n'a même jamais envisagé que les étudiants refusent de s'engager sur ces trois règles, puisqu'on n'a jamais discuté de sanctions potentielles en amont de la mise à signature de ce formulaire. Donc, à partir du moment où on n'a pas de règlement à l'université qui prévoit des sanctions, on n'applique pas de sanctions, il n'y a aucune conséquence là, à ne pas signer le formulaire. Je pense que notre objectif, nous, il est atteint puisque l'idée était véritablement que chacun prenne bien connaissance du contenu de ce courriel et du formulaire qui l'accompagnait. Et donc, je pense que le but est atteint de ce point de vue-là. C'était le seul objectif. Et l'objectif était derrière, effectivement, de responsabiliser individuellement chacun des étudiants qui allait passer des épreuves à distance.
La télésurveillance concerne donc 5 épreuves de l'Institut de gestion de Rennes et non pas toutes les épreuves de l'université. À noter, pas d'obligation de signer ce formulaire d'engagement et d'information. Pour les épreuves télésurveillées, à l'IGR, c'est un prestataire qui sera chargé d'effectuer des contrôles visuels à l'aide de photos prises par webcam pour vérifier qu'il n'y a pas de changement dans l'environnement où compose le ou la candidate. Et donc la télésurveillance sera gérée par un organisme extérieur à Rennes ?
Nécessairement, oui, effectivement, il y a un certain nombre d'organismes de prestataires, effectivement, dont la liste nous a été donnée effectivement, par le ministère, d'ailleurs, et qui sont des organismes qui travaillent déjà avec plusieurs universités. Hein, c'est des organismes dont les prestations ont déjà été éprouvées et puis qui répondent à toutes les exigences réglementaires. Et donc, voilà, pour nous, c'était l'occasion, effectivement, sur un petit nombre d'épreuves, de faire un test, effectivement, avec l'un d'entre eux.
Ces prestataires répondent également aux exigences quant aux données, elles ne pourront pas être collectées par un autre organisme que Rennes 1, ça c'est sûr.
Oui, ça répond à toutes les exigences. Hein. Puis nous, on est très soucieux, et nos services juridiques à l'université sont très soucieux de la protection des données des étudiants, hein, puisqu'on manipule, effectivement, au sein des universités, et là, indépendamment du contexte Covid, dès qu'il y a des examens, on manipule des copies, on manipule des notes en relation avec un nom d'étudiant, véritablement. Et donc, ces protections, ça, c'est des données, effectivement, sur lesquelles on est très vigilant quant à leur protection, hein, bien sûr.
S'il y a une télésurveillance, ça concernera l'ensemble des étudiants qui passent cette épreuve. Et s'il y en a un ou une qui n'est pas consentant, ça ne se fera pas.
Non, tout à fait. Pour lui, ça se fera pas. Il aura le droit à une épreuve de substitution. Et naturellement, là, puisque c'est une épreuve surveillée, du coup, pour le coup, il faudra attendre qu'on ait l'autorisation du ministère pour accueillir à nouveau en présentiel les étudiants qui n'étaient pas consentants. Donc, et ça, on n'a pas encore de. On espère que ce soit au plus tard le mois de septembre, mais on n'a pas de visibilité, effectivement, sur. Le moment où on sera en capacité à nouveau d'accueillir des étudiants. On espère même, si possible, fin juin ou début juillet, hein, bien sûr, on va suivre. Mais dès que c'est possible, effectivement, bah, il y aura une épreuve surveillée pour les étudiants non consentants, le JR, là, ceux qui, s'il y en a, ils auront une épreuve surveillée de substitution. C'est ce que prévoit le cadrage, effectivement, du mois d'avril. Ce sera la même chose pour tous les étudiants qu'on appelle empêchés numériques, et effectivement, qui n'ont soit pas d'ordinateur, soit de très mauvaises conditions de connexion.
D'autres dispositifs exceptionnels de contrôle à distance existent. Le communiqué évoque notamment le fait que les équipes pédagogiques qui le souhaitent ont la possibilité d'effectuer des contrôles aléatoires d'identité pour s'assurer que le travail est bien le fruit du ou de la candidate. Et ce, par un simple contrôle visuel à l'aide du seul téléphone portable des étudiants consentants. Un dispositif différent de la télésurveillance à l'IGR et utilisé a priori que par la faculté de médecine.
Alors en fait, c'est un dispositif chez nous qu'on a validé parce qu'il est mis en œuvre à la faculté de médecine. Donc, on a mis ce dispositif à disposition des composantes, libre à elles après de s'en saisir ou de ne pas s'en saisir. C'est-à-dire que c'est une possibilité et ce n'est pas du tout la majorité de nos composantes et de nos formations qui vont utiliser ce dispositif. D'abord parce qu'elles n'en ont pas nécessairement les moyens humains, hein, puisque bah, il faut effectivement déjà que disposer des numéros de téléphone des étudiants, les avoir mis en place le dispositif avec eux, qu'ils soient tous ceux de l'épreuve concernés, il faut qu'ils soient consentants aussi pour ce dispositif. Donc, ça suppose en amont d'avoir mis en place un certain nombre de choses. Donc là, nous, pour nous, c'est un dispositif qui, à ma connaissance aujourd'hui, en tout cas, n'est utilisé que pour certaines épreuves de la faculté de médecine.
Et alors, dans le communiqué, il est ensuite ajouté, après avoir parlé de ces contrôles aléatoires d'identité, que les étudiants qui consentent à ce contrôle bénéficieront alors d'un temps supplémentaire pour composer. Alors là, est-ce que ça concerne tous les étudiants qui seront télésurveillés? Est-ce qu'il n'y a pas une rupture d'égalité également à soumettre quelque part le volontariat à l'avantage d'un temps plus long?
Non, il n'y a pas de rupture d'égalité dans la mesure où tous les étudiants qui subissent une même épreuve, en fait, ont tous la même modalité. La seule chose, c'est qu'effectivement, si on fait un contrôle aléatoire d'identité pendant une épreuve, il y a un certain nombre d'étudiants qui ne vont pas être contrôlés et d'autres qui vont avoir été contrôlés. Sur une centaine d'étudiants, hein, c'est une dizaine qui sont contrôlés, c'est comme ça que ça fonctionne en général. Et donc, les 10 étudiants qui sont contrôlés, naturellement, bah, le temps du contrôle, ils perdent un peu de temps. Si c'est une épreuve, bien sûr, à durée limitée, hein, ça présente un intérêt, le temps supplémentaire, que si l'épreuve est vraiment en temps limité. Donc, pour justement éviter la rupture d'égalité, eh ben, on leur donne le temps supplémentaire. Le temps qu'ils ont perdu pendant le contrôle, on leur donne à la fin de l'épreuve pour qu'ils puissent finir de composer. C'est justement une mesure en faveur de l'égalité.
Pour le moment, donc, seule la faculté de médecine semble utiliser ce dispositif qui est toutefois proposé aux autres UFR. Erwan Allo souhaite aussi rassurer les étudiants et étudiantes en cas de problème technique avec les moyens déployés par l'Université Rennes 1. L'université, en effet, a aussi proposé, par exemple, des prêts de tablettes et offre des aménagements pour ces étudiants-là. À quelles conditions les étudiants et étudiantes pourront prétendre à ces aménagements quand on est empêché numérique ?
À partir du moment où ils se sont signalés, on a mis en place plusieurs dispositifs de signalement depuis le début de la crise sanitaire. Donc, ça peut passer par la composante et par les responsables de formation, mais il y avait aussi une hotline mail. Et puis, il y a eu un sondage. Et puis, on a envoyé une campagne de SMS pour les gens qui n'avaient pas accès même à leur boîte mail, effectivement. Et les étudiants, à l'issue de cette campagne de SMS, pouvaient demander à se faire rappeler sur leur téléphone portable. Et puis, il y en a donc un certain nombre qui ont demandé à se faire rappeler. Donc, du coup, on connaît assez bien, effectivement, les difficultés de l'ensemble de nos étudiants, que ce soit ces difficultés un peu techniques, là, pour accéder à la continuité pédagogique, mais aussi leurs difficultés d'ordre social, sanitaire, psychologique, etc. Donc, et on a pu rediriger, effectivement, vers les services compétents, du coup, les étudiants en fonction de leurs difficultés. Et pour ceux qui sont en difficulté technique, du coup, soit parce qu'ils n'ont pas d'ordinateur, on vient d'acheter effectivement 200 ordinateurs qui vont être un peu plus d'une centaine vont être livrés là à des étudiants qui acceptent effectivement le prêt d'ordinateur qu'on leur propose. Et puis on a aussi une aide forfaitaire de 50 euros pour aider ceux qui ont des mauvaises connexions Internet à améliorer leur connexion Internet, soit augmenter leur forfait, soit s'équiper d'une clé 4G, soit... Oui, l'idée pour nous, c'est vraiment d'aider au maximum les étudiants en difficulté, bien entendu. C'est vraiment une priorité et c'est pour ça qu'on a vraiment mis en place dès le début des dispositifs d'identification de ces difficultés le plus précis possible. On est tous embêtés à l'échelle nationale avec les étudiants qui, pendant le confinement, se trouvaient par exemple dans une zone blanche, totalement blanche, mal couverte par les réseaux et la réception des réseaux, parce que là, effectivement, techniquement, on ne pouvait pas, pendant le confinement, leur apporter de solution. La période de déconfinement va sans doute leur permettre là, de bouger, s'ils en ont la possibilité, pour regagner une résidence, effectivement, dans laquelle ils pourront avoir accès à Internet.
Dans tous les cas, les étudiants et étudiantes sont prévenus 15 jours à l'avance des modalités d'examen et de tout changement de modalité. Enfin, j'ai voulu connaître les arguments des étudiants qui ont pu être entendus face à ces modalités d'examen à distance.
Et justement, pour pouvoir prendre ces décisions, celles de la télésurveillance aussi, vous expliquez qu'il y avait eu des réponses aussi des étudiants et étudiantes. Alors, quelles ont été peut-être les difficultés recensées pour les étudiants, leurs peurs, leurs arguments peut-être aussi en faveur de la télésurveillance ?
Oui, alors ceux qui souhaitaient effectivement, qui avaient effectivement fait part d'une demande de garantie et pour laquelle la télésurveillance pouvait être une réponse, en fait, c'était des étudiants qui, sachant qu'ils n'étaient pas confinés les uns et les autres exactement dans les mêmes conditions, certains étaient totalement isolés, d'autres effectivement pouvaient être confinés en famille. Pour prendre un exemple, par exemple, imaginons pour une épreuve de droit, quelqu'un qui est confiné avec des parents qui sont juristes ou l'un des parents est juriste, pendant l'épreuve, il a la possibilité d'échanger effectivement sur son sujet avec ses parents, alors que bien sûr, l'étudiant qui lui est isolé n'a pas cette possibilité-là. Et donc, je pense que les étudiants qui demandaient ces garanties, c'était par rapport à des craintes de ce type-là.
Et au contraire, est-ce que vous avez eu des retours plus négatifs sur ces décisions, sur des craintes peut-être par rapport à la protection des données personnelles ?
Bien sûr, la crainte de l'utilisation des données personnelles, mais dans le cadre réglementaire qui nous est donné ou pour lequel on a connaissance, il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Et je dirais que ça, c'est nos services juridiques en fait qui s'assurent effectivement dans les cadres des contrats qu'on peut passer avec le prestataire, que ça répond bien effectivement à toutes les exigences de protection et surtout que nos prestataires n'utilisent pas, et ça c'est dans toutes les clauses de contrat, les données personnelles auxquelles ils pourraient avoir temporairement accès. Les données ne sont utilisées que par l'université, de même que les épreuves, les notes ne sont gérées que par des équipes pédagogiques. Il ne s'agit pas d'aller confier à un prestataire l'évaluation elle-même. L'évaluation reste entièrement gérée, dans tous les cas, par les équipes pédagogiques de l'université.
Ainsi, la télésurveillance concerne 5 épreuves de l'IGR et n'est pas généralisée à Rennes 1. Certains étudiants ont aussi appuyé les modalités choisies pour ces examens à passer dans une situation inédite.
Et pourtant, de leur côté, Bleu-Haine, certains syndicats étudiants ont vivement critiqué les décisions de l'Université de Rennes.
Et effectivement, j'ai échangé avec Hugo Colombi, membre de l'Alternative écologiste et solidaire, liste élue à l'université. Il souligne principalement une mauvaise, voire un manque de communication de la part de la direction et des conditions de travail à distance qui ne sont pas toujours bonnes.
Nous, en fait, déjà, on avait une position qui était très claire depuis le début, c'est la question de la neutralisation du semestre. Parce qu'en fait, on considère que c'est un semestre, en fait, qui est extraordinaire de par la question du confinement, etc. Et là, nous, du coup, là-dessus, on n'a jamais été écoutés, on a envoyé plusieurs mails, on n'a jamais eu de réponse concernant nos revendications là-dessus. Donc là, déjà, c'est le premier point, c'est que donc conservation des examens en ligne, ce qui nous pose un premier problème quand on voit tous les problèmes psychologiques, matériels, etc., que peuvent rencontrer les étudiants en général, quoi. C'est aussi qu'il y a cette question-là de la télésurveillance qui reste encore ambiguë, c'est-à-dire que depuis le début, ils demandent s'il n'y a pas de télésurveillance, alors que la question d'un contrôle d'identité, de lieu dans lequel on vit, ça reste quand même de la télésurveillance. C'était ça le gros problème, la télésurveillance que rencontraient les étudiants là-dessus. C'était le fait d'être stressé en permanence parce qu'il y a quand même une caméra qui nous observe. Il y a quand même le problème du lieu de vie. Je sais pas, moi, quand on vit à 4 dans un appartement qui n'est pas si grand que ça, etc., il y a quand même des conditions en fait qui ne sont pas réunies pour que les étudiants puissent étudier, en fait, et puis surtout composer dans les épreuves dans le calme et sans trop de problèmes. Donc c'était ça quand même la crainte qu'on avait, nous, pour les étudiants qui sont venus nous contacter, en fait.
Et donc vous soulignez un gros manque de communication et d'écoute de la part de l'université.
Oui, totalement. C'est quand même un problème de communication, aussi un flou sur énormément de choses, un flou sur quelles vont être les conditions de surveillance, quelles vont être les conditions de passage d'examen. La présidence a toujours été floue sur cette question-là.
Merci Bleu-Haine pour ton reportage. Pour le moment, l'université Rennes 1 ne compte pas renoncer à l'utilisation de la télésurveillance pendant ses examens.